8h au crayon d'Europe 1.
C'est une catastrophe économique et sociale annoncée pour les avocats, mais aussi pour les infirmiers et bon nombre de professions libérales.
Un nouveau front contre la réforme des retraites, la mobilisation des avocats. Les robes noires appellent au rassemblement aujourd'hui et plus largement, ce sont les professions libérales qui expriment leur mécontentement.
Elles s'y voient déjà en haut de l'affiche pour la présidentielle 2022, mais avant il y a les municipales, une étape avant l'Élysée pour Marine Le Pen qui a lancé hier sa campagne à Fréjus.
Chaque scrutin doit permettre d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet, et le sommet, c'est l'Élysée.
8h15, votre invité politique, Sonia.
Le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, objectif municipal et présidentiel donc, mais avec qui ? Les alliances et les obstacles, on en parlera tout à l'heure.
Qui prend le temps de lire la mention « Accepter » à chaque fois qu'il consulte un site internet ? Pas grand monde. On a tendance à cliquer pour s'en débarrasser. Attention à ne pas accepter n'importe quoi.
On découvre que dans l'une des lignes, il est marqué « Vous ne pourrez plus jamais effacer votre compte ». Toutes les informations que je vais envoyer vont appartenir à la société.
Patouche à Jeanne Calment. Contrairement à l'affirmation de scientifiques russes, une étude vient démontrer la longévité de la doyenne de l'humanité morte à 122 ans.
Il est 8h01. Bon réveil à toutes et à tous. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1.
Le journal Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
La grogne des robes noires, c'est un nouveau front qui s'ouvre contre la réforme des retraites. Les avocats se mobilisent, la majeure partie des barreaux de France concernés.
Ils entendent protester contre le projet du gouvernement, les avocats qui craignent d'être dissous dans le régime universel.
Et ils n'ont pas tellement l'habitude de battre le pavé. Les raisons de leur colère, résumées à votre micro Mathieu par Marie-Aimée Perron, bâtonnier au barreau de Paris.
C'est une catastrophe économique et sociale annoncée pour les avocats, mais aussi pour les infirmiers et bon nombre de professions libérales. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas un régime spécial, mais un régime autonome qui ne coûte strictement rien à l'État, pas un centime d'euro. Et cette réforme va amener un doublement de nos cotisations et une baisse des prestations. Quand on met à mal la profession d'avocat, on met à mal la justice et les Français. Notre mobilisation ne faiblira pas.
C'était à 6h40 tout à l'heure en direct sur Europe 1, bien sûr, avec les avocats. Ce sont plus largement les professions libérales qui se mobilisent et vous en faites peut-être partie. Vous allez protester, manifester aujourd'hui 39-21, le hashtag Europe 1.
Cliquez sur la mention « Accepter » à chaque fois que nous consultons un site internet. C'est obligatoire depuis le règlement européen de la protection des données personnelles. Mais êtes-vous capable de me dire, nos auditeurs comme vous, Mathieu, ce que vous avez vraiment accepté ?
Pas du tout.
C'est
pas
clair.
Vraiment, pas sûr d'avoir lu une seule fois ce sur quoi je cliquais. Pourtant, des effets pervers se cachent dans ces textes. Certains sites en profitent pour nous faire accepter tout et n'importe quoi. Les précisions, écoutez, avec Aude Leroy.
Je vois un onglet et je clique « OK » parce que c'est trop petit pour que je puisse lire et comprendre.
C'est du charabia, la première fois que je l'ai lu en entier et depuis je ne lis plus.
Et si, comme ces Français, vous cliquez machinalement sur cet onglet, sachez que ça revient à donner un blanc-seing à l'exploitation illégale de toute votre identité numérique. Un numéro de carte bancaire ou de téléphone, vos mots de passe, etc. Ce RGPD qui devait protéger vos données personnelles est victime de votre laisser-aller, explique Damien Bancal, spécialiste en lutte contre le cybercrime.
Assez précis, ce petit onglet qui dit « OK, acceptez nos règles d'utilisation et d'utilisateur ». Qui aujourd'hui va lire l'intégralité de ce mode d'emploi ? Sauf qu'en le lisant, on découvre que dans l'une des lignes, il est marqué « Vous ne pourrez plus jamais effacer votre compte ». Toutes les informations que je vais envoyer vont appartenir à la société, mais elle s'en moque un petit peu. Elle va collecter tellement de données que même si ensuite je les fais effacer, il sera trop tard.
Un autre effet pervers de ce qui devait protéger l'utilisateur, c'est que même l'entreprise vertueuse qui aura mis les moyens pour protéger vos données personnelles, même elle, n'est pas à l'abri d'un piratage. Auquel cas, une nouvelle fois, vos données seront exposées à faire le tour du monde des cybercriminels et vous aurez donné votre accord préalable.
Reportage signé Aude Leroy pour Europe 1.
Il est 8h04.
C'est l'application smartphone secrète qui fait trembler les ministres.
Une application qui vérifie en temps réel la mise en œuvre et le suivi des réformes et donc l'efficacité des ministres et de leurs administrations respectives. Il y a quelques mois, les collaborateurs du président ont imaginé ce système 2.0. Ils ne sont que quelques-uns au sommet de l'État à y avoir accès. David Doucan a pu la consulter quelques minutes.
Sur l'écran du téléphone, une page par ministère, avec un curseur pour chaque réforme. Si la mise en pratique avance bien, la petite barre est verte. Si cela traîne, c'est rouge. Le rouge de la honte pour le ministre qui n'a pas suffisamment mis la pression sur son administration. Exemple, le chômage pour les démissionnaires, le droit à l'erreur. C'est voté, mais la mise en pratique tarde trop. Les inventeurs de l'application sont le délégué à la transformation publique, Thomas Cazenave, et le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler. Management 2.0 de la start-up Macron, jusqu'à Jusqu'ici, les ministres regardaient cela d'un œil agacé, mais serein, jusqu'au jour du séminaire gouvernemental, lorsqu'un certain Emmanuel Macron leur apprend qu'il a, depuis quelques jours, son login et son mot de passe. Et le président, qui consulte l'application, voit trop de rouge. L'air de la pièce perd 10 degrés d'un coup. Les ministres regardent intensément leurs notes en attendant que le moment passe. Les deux animateurs de l'appli ont récemment proposé à Emmanuel Macron de carrément la rendre accessible au grand public. Chaque citoyen pourrait suivre en temps réel la mise en pratique des réformes. Le chef de l'État a dit non pour ne pas tétaniser son gouvernement. En tout cas pour l'instant.
Une information qu'Europe 1 révèle avec David Doucan, chef du service politique de la rédaction. Si vous souhaitez voir à quoi ressemble cette application, peut-être vous en inspirer pour votre bureau, rendez-vous sur europe1.fr. Nous nous sommes procuré une capture d'écran de cette appli.
Ne donnez pas de mauvaises idées, Mathieu. Objectif municipal à présent et surtout objectif présidentiel 2022 pour Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National se pose en seule alternative à Emmanuel Macron. À Fréjus hier, devant des militants galvanisés, elle a balisé le chemin qu'elle se voit en
dans ce moment politique exceptionnel qui voit s'opérer la grande recomposition entre nationaux et mondialistes, chaque scrutin doit permettre à notre famille politique d'accrocher un mousqueton supplémentaire sur la paroi qui mène au sommet. Et le sommet, vous le savez, c'est l'Élysée.
Marine Le Pen à Fréjus au micro européen de Claudia Bertram. 8h15, votre invité, Sonia.
Le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, avant 2022, il y a 2019, 2020, bref, les municipales, quel objectif pour le RN et surtout quelles alliances? Avec qui? Réponse tout à l'heure avec notre invité.
Europe 1. Vous restez bien sur Europe 1, une nuit d'angoisse, ce drame, cet incendie dans un EHPAD à Paris. Nous serons sur place dans un instant, la suite du journal sur Europe 1.
Il est 8h07. Europe 1, il est 8h09, la suite du journal, Sonia Mabrouk, Mathieu Béliard.
Cette nuit d'angoisse, bien sûr, ce drame, surtout après l'incendie dans un EHPAD, une maison de retraite du 16e arrondissement de Paris. Un mort, un homme âgé de 100 ans, un centenaire, deux blessés dans un état grave. L'enquête ne fait que débuter.
Bonjour Daniel Jazzy.
Bonjour.
Maire du 16e arrondissement de Paris, qu'est-ce que l'on sait précisément ce matin du sinistre ?
Écoutez, le sinistre s'est déclaré vers 9h20. Les pompiers sont intervenus très rapidement. On a évité une vraie catastrophe. Je pense qu'on le doit beaucoup aussi au personnel qui a été absolument exemplaire, calme et très organisé. Voilà, un étage entier, le deuxième, est aujourd'hui condamné. Tous les autres occupants ont pu regagner leur chambre dans la nuit. Effectivement, on déplore un décès, deux urgences absolues et quatre urgences relatives, dont un pompier. Voilà.
Tous les autres occupants ont pu récupérer retrouver leur chambre. Les résidents du deuxième étage ont pu être relogés. Daniel Jazzy,
oui,
que sait-on à l'heure qu'il est de l'origine de l'incendie ?
Écoutez, on ne sait rien de sûr et certain. Hier, on parlait, enfin cette nuit, nous parlions d'une cigarette, car certains occupants, malgré les interdictions, fumaient. Donc voilà.
Ça n'est pas confirmé encore, hein, Daniel Jazzy.
Non, ça n'est pas confirmé, non. Mais bon, voilà.
Merci Daniel Jazzy, maire du 16e arrondissement de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions en direct dans le journal de 8h d'Europe 1.
Europe 1, il est 8h10.
C'était le jour J, hier, pour la jeune démocratie tunisienne. Deux candidats revendiquent être au second tour de la présidentielle. L'homme d'affaires emprisonné, Nabil Karoui, et l'universitaire indépendant, Kaïs Saïd. Seule confirmation officielle pour l'heure, le taux de participation, 45%. Et il était de 64% il y a 5 ans, précédent scrutin présidentiel. Bonjour Vincent Hervouette.
Bonjour Sonia.
Évidemment,
bonjour
tous les regards sont tournés vers ce laboratoire de la démocratie.
Ben, tout le monde admire la démocratie tunisienne. Ses voisins ont envié les débats télévisés de la présidentielle. Quel miroir flatteur. Mais la réalité, c'est un système en panne. La réalité des chiffres, en effet, la participation en 2014 était de 63% et hier, un tiers d'électeurs en moins, comme aux dernières municipales. Comme si les Tunisiens ne croyaient plus à la politique. En tout cas, ils ne croient plus aux politiciens. Trois anciens premiers ministres, un ancien président, l'actuel chef de gouvernement prennent une raclée. Les deux grandes forces du Parlement, le centre libéral et le parti islamiste, sont balayés. Et au milieu des décombres, deux outsiders, Nabil Karoui et Kaïs Saïed. Tout oppose ces deux hommes qui s'opposent au système. Le milliardaire qui faisait campagne en Range Rover, distribuant les cadeaux comme un Père Noël hors saison, avec sa femme en stiletto. Et l'universitaire qui roule dans sa vieille Paris, Peugeot, sans parti, sans meeting, sans réseaux sociaux, sans sourire. Le premier est populiste et fait de la télé. L'autre parle en arabe classique et fait de la télé. Nabil Karoui est en prison, ça va être compliqué de l'y laisser. Caïd Sayed enseigne le droit constitutionnel. Il croit être le droit et l'autre le tordu. Le second tour va encore simplifier l'équation. Caïd Sayed invoque la charia. Il aura le soutien des islamistes. À défaut, Nabil Karoui doit réveiller le peuple. La vraie campagne commence ce matin.
Merci Vincent Hervouette, l'éclairage international de Vincent Hervouette dans le journal de 8h. Merci Vincent.
Il est 8h12 sur Europe 1.
À cause d'une attaque de rebelles yéménites en Arabie Saoudite, les Français vont probablement voir les prix du pétrole augmenter dès les prochains jours. Ils grimpent déjà de plus de 10%. Les rebelles houthis au Yémen ont revendiqué cette attaque, mais tous les regards se tournent vers leur parrain iranien.
Conséquence, Donald Trump s'est dit cette nuit prêt à riposter sur place notre correspondant à New York, Xavier Yvon.
Donald Trump ouvre les vannes et prépare ses armes. Le président américain a d'abord autorisé le recours à la réserve stratégique de pétrole pour assurer un bon approvisionnement des marchés. Et puis Donald Trump a rédigé un tweet de menace avec sa phrase fétiche « We are locked and loaded », nos armes sont chargées et prêtes à tirer. Contre qui ? Il y a des raisons de croire que nous connaissons le coupable, écrit-il, mais nous attendons des informations du royaume saoudien. Son chef de la diplomatie, lui, avait été plus direct la veille, accusant l'Iran. Images satellites à l'appui, les services américains pensent que les frappes sont venues du Golfe Persique et non du Yémen et qu'il y avait des missiles en plus des drones. Accusation insensée, répond Téhéran. La tension monte donc entre les deux pays alors que se profilait la possibilité d'une rencontre inédite entre les présidents Trump et Rouhani la semaine prochaine à l'Assemblée générale des Nations Unies. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Cette étude à présent à 8h13 sur Europe 1, une étude qui écarte toute supercherie sur l'âge de Jeanne Calment.
L'idée que la Française, devenue mondialement célèbre à la fin du XXe siècle en raison de son âge extraordinaire, n'était pas Jeanne, mais en réalité sa fille Yvonne Calment, eh bien cette idée est sans fondement, c'est ce qu'affirment des chercheurs suisses et français. Bonjour Julien Pierce.
Bonjour.
Ça veut dire que le record de longévité de Jeanne Calment, décédée à 122 ans, tient toujours.
Oui, cela ne fait aucun doute pour ces quatre chercheurs qui ont pendant plusieurs mois repris point par point toutes les accusations. Souvenez-vous, au début de l'année, des scientifiques russes affirment que Jeanne Calment n'est pas morte en 1997, mais en 1934. Sa fille Yvonne aurait alors emprunté l'identité de sa mère pour éviter de payer des droits de succès. Pour étayer leur thèse, les gériatres russes analysent des photos. Pour eux, Jeanne Calment a l'apparence d'une personne âgée de 25 ans de moins. Oui, c'est vrai, répondent les chercheurs suisses et français, mais c'est parce que les supercentenaires ont un vieillissement remarquablement lent. En clair, en évitant de graves maladies, Jeanne Calment a retardé de manière exceptionnelle son déclin physique. Autre argument avancé par les Russes, il est impossible statistiquement qu'une seule personne dans l'histoire de l'humanité ait atteint les 122 ans. Faux, répond l'un des chercheurs suisses. D'après ses calculs, une personne née en 1875, comme Jeanne Calment, avait une chance sur 10 millions de mourir à 122 ans ou plus. Rarissime donc, mais pas impossible.
Merci Julien Pierce. Europe 1. Vous restez bien avec nous sur Europe 1. Votre invité politique, Sonia.
C'est le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella. Marine Le Pen met le cap sur les municipales et au-delà, sur la présidentielle. Voilà pour le parcours. On va aussi parler des obstacles dans un instant avec mon invité.
A tout de suite sur Europe 1.